France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Et pour cause, demain, mercredi 28 mai, le tribunal de Vannes rendra son délibéré dans le procès de Joël Skouarnec, ancien chirurgien, accusé de 299 viols et agressions sexuelles aggravées. Derrière l'horreur de cette affaire, considérée aujourd'hui comme la plus grande affaire de pédophilie traitée par la justice en France, il y a l'espoir que ce procès puisse faire avancer les mentalités et notamment briser l'omerta des institutions médicales. Ce serait une étape de plus dans le long chemin de la prise en compte de la pédocriminalité dont la justice se saisit à partir du 19e siècle. De péché à crime, en passant par pathologie ou fantaisie littéraire, la pédophilie a changé le statut en cours des deux derniers siècles. Alors qu'est-ce que l'histoire de la pédophilie nous permet de mieux comprendre sur ce qu'elle est véritablement? Une historienne, une invitée ce soir pour en parler, Anne-Claude Ambroise-Rendu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et vous avez fait paraître en 2014 aux éditions Fayard une histoire de la pédophilie. Merci d'être présente ce soir dans Question du soir. Et avant de parler de l'affaire Le Skouarnec elle-même, un pas de côté, puisque le 23 mai dernier, donc c'était il y a quelques jours, au terme de 10 mois d'enquête, 55 hommes âgés de 25 à 75 ans, issus de tous les milieux sociaux, ont été interpellés dans 42 départements. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à des groupes sur la messagerie sécurisée Telegram, où s'échangeaient des photos, des vidéos de sévices et de viols perpétrés sur des enfants, tous âgés de moins de 10 ans. Est-ce que cela montre, selon vous, Anne-Claude Ambroise-Rendu, qu'il y a quelque chose dans la pédophilie qui relève là aussi d'un problème profondément structurel ?
Ah oui, c'est un problème structurel, c'est évident. Et il me semble que la question de la masse des individus concernés, là, ne dit rien de plus sur le problème structurel que quand il n'y a qu'un individu accusé. Et cette affaire-là, elle relance une question qui est posée depuis les années 70, qui concerne l'existence de réseaux. Et qui a été quand même pas mal écarté, tout simplement parce que tous les défenseurs de la thèse de réseaux de pédophiles, en réalité, ne produisaient pas vraiment de documentation permettant d'attester de l'existence de ces réseaux. Et donc, on a longtemps considéré que c'était un peu quelque chose qui relevait du mythe ou du fantasme.
Et du complotisme, disons-le
par ailleurs. Et voilà, absolument du complotisme. Donc, on va voir là si cette affaire-là permet de franchir une nouvelle étape.
Je vais vous faire entendre la voix de Vincent Houys, une victime de Joël Le Skouarnec. En 1994, il témoignait dans Mediapart.
Cette agression a eu lieu quand j'étais pas encore opéré. C'était une visite préopératoire et donc j'étais pas sous anesthésie. Sauf que vous avez affaire à un médecin. J'ai considéré que c'était un acte médical. Tout ça, je m'en rappelle parfaitement. Je le décris tout de suite. Et de la personne, de la date, presque de l'heure, des circonstances, médecin. Du lieu, de son visage, de la position. Et par contre, entre le moment où je le décris et le moment où je fais la différence entre un geste médical et une agression, c'est-à-dire un viol, eh bien, je mets encore presque 5 ans, puisque c'est depuis seulement quelques mois que je fais ce lien.
L'affaire Le Skouarnec, on le rappelle, c'est au moins 299 victimes, 158 garçons, 141 filles qui avaient pour moyenne d'âge 11 ans lorsqu'ils ont été agressés ou violés. Il faut dire un mot justement de l'ampleur des chiffres. Est-ce que c'est d'abord une affaire qui frappe par le nombre de victimes ou il y a autre chose qui vous interpelle ?
Alors, elle frappe par le nombre des victimes, c'est évident. À ma connaissance, c'est la première fois que la justice française a s'occuper d'une affaire de cette ampleur. Par ailleurs, elle est comme la caricature de ce qui typifie ces affaires de criminalité sexuelle, notamment ces 30 ans de silence. D'aveuglement des institutions autour de ce qui se passe dans ces hôpitaux, qui tiennent à la personnalité de l'homme, plus qu'à sa personnalité, d'ailleurs à son statut social. Ça, c'est fondamental. On ne met pas en cause un notable. Et quand il est mis en cause...
Un chirurgien gastrique.
Voilà. Et quand il est mis en cause, ce qui a été le cas en 2005, on le réembauche ailleurs quand même, parce qu'il y a quelque chose là d'indépassable.
mis en cause en 2005, il faut rappeler pourquoi, il avait été accusé, rendu coupable même pour détention d'images, condamné à 4 mois seulement, j'allais dire,
avec sursis,
pour détention d'images pédocriminelles. Est-ce qu'il faut parler de pédocriminalité ou de pédophilie? Quel terme employez-vous vous-même?
Pédocriminalité, le terme pédophilie est un terme qui vient de la médecine aliéniste, de la psychiatrie, et qui désigne donc une paraphilie, c'est-à-dire une déviance, une maladie mentale en quelque sorte. Il me semble que c'est pas du tout un terme qui est adapté au traitement judiciaire de ces affaires-là.
MeToo, Camille Kouchner, Vanessa Springora, Bétaram évidemment, le Squarneck, est-ce qu'il vous semble en tant qu'historienne que l'on est entré dans une nouvelle ère dans l'appréhension de ces affaires pédophiles, pédocriminelles en l'occurrence?
Je vous répondrai en tant qu'historienne et en tant que citoyenne, en tant que femme, que je l'espère. Je l'espère, mais comme j'ai travaillé quand même assez longtemps sur ces questions et qu'il m'a semblé repérer toute une série d'étapes successives au fil du temps qui auraient permis de rentrer dans une nouvelle ère, et puis plof, le soufflet retombait quelques temps après, je reste méfiante. Il me semble quand même que depuis 2017-2018, l'affaire Weinstein, MeToo, Balance ton porc, là on a franchi quand même une nouvelle étape qui a permis aux femmes de prendre en charge cette question des violences sexuelles et qui donc a ouvert quelque chose qui me semble irréversible. On ne revient, enfin, j'espère, je crois pouvoir affirmer qu'on ne reviendra pas en arrière.
Je vous cite Anne-Claude Ambroise Rendu, un extrait de votre ouvrage. Le sujet pourrait paraître anecdotique, rapporté au sanglant fracas des conflits mondiaux du XXe siècle. Pourtant, le silence dont il a fait l'objet de la part des protagonistes et des observateurs de ces histoires longtemps demeurées secrètes, comme de la part des historiens, suffirait à lui seul à indiquer qu'il y a dans cet angle mort de la visibilité publique comme un point central de l'histoire des sociétés, en l'espèce de la société française. Fin de citation. Pourquoi est-ce que c'est si difficile, si compliqué peut-être, vous allez nous le dire, de travailler en tant qu'historienne sur la pédocriminalité? Pourquoi c'est compliqué d'en faire un objet de recherche?
Alors c'est compliqué parce que ça, enfin quand j'ai commencé en tout cas, c'est-à-dire autour de 2001-2002, ça c'était à peine reconnu comme un objet possible de recherche. Mes collègues trouvaient que oui, ça avait l'air bien intéressant, mais c'était quand même un peu dégoûtant. Et par ailleurs, donc le sujet a eu du mal à s'imposer, disons, dans l'espace académique.
C'est un sujet illégitime.
Un peu, et il l'est toujours d'une certaine manière.
Pourquoi le reste-t-il alors?
Je vous retourne la question, je ne sais pas. Il me semble que c'est juste, ça témoigne, c'est un écho de la manière dont il peine à être pris en charge par la société globale, par le corps social, hein, tout simplement. Et puis c'est difficile aussi parce que ça met en jeu quand même une émotion, une sensibilité individuelle qu'il faut brider très vite pour ne pas... Pour l'aborder, disons, de manière très froide.
Remontons alors avec vous le fil de cette histoire. En quoi l'année 1832 marque-t-elle une rupture, et une rupture dans le domaine juridique?
Parce que c'est l'année au cours de laquelle on invente en quelque sorte un nouveau crime, celui qu'on appellera ensuite crime de pédophilie. La transformation du code pénal fait que... l'article qui sanctionnait les crimes sexuels et qui considérait que la minorité était une circonstance aggravante, cet article est transformé et au profit donc d'une rédaction nouvelle qui dit très précisément que est un crime sexuel quand il y a viol ou attentat à la pudeur avec ou sans violence, et c'est la question de sans violence qui est importante, hein, sur un mineur de moins de 11 ans. Donc cet article précise bien que un mineur ne peut donner son consentement, et que donc la question du consentement quand il s'agit d'un enfant n'est pas en cause.
Et donc c'est moins la question au fond de la violence qui prédomine que la question désormais de l'âge de la victime.
C'est ça, c'est l'âge de la victime qui la désigne comme une victime justement. Et qui désigne son agresseur comme, même si le terme n'est pas encore utilisé, comme un prédateur.
en dehors du domaine juridique, quand est-ce que l'on commence à tenir compte, à prendre en compte l'impact sur la psyché de ces enfants, de comprendre justement que la pédocriminalité a un impact sur la vie sociale, psychique de ces êtres?
Alors ça c'est tardif, il y a quelques frémissements au milieu du siècle, un médecin, Ambroise Tardieu, qui ayant examiné des petites filles qui ont été violées ou qui ont été victimes d'attentats à la pudeur avec ou sans violence, remarque que dit qu'elles ont été atteintes dans leur sensibilité, dans leur morale. Et puis, c'est assez vite oublié. Et en réalité, il faut, à la toute fin du 19e siècle, le développement des sciences du psychisme, donc la psychologie, et puis les travaux de Freud en psychanalyse, pour qu'on commence à concevoir que il peut l'idée même de traumatisme, c'est-à-dire quelque chose qui reste enfoui dans l'esprit de quelqu'un, alors même qu'il n'en a pas forcément conscience, et qui peut ressurgir, et qui fait des dégâts. Qu'ils ressurgissent d'ailleurs ou qu'ils ne ressurgissent pas en réalité. Donc c'est l'idée d'une souffrance enfouie qui ne se dit pas, qui ne se donne pas forcément à voir, mais qui peut se manifester par d'autres moyens que le verbe.
Je reviens un instant, Anne-Claude Ambroise Rendu, dans ce 19e siècle dont vous montrez qu'il ne dessine pas une histoire unilatérale. Dans le fond, il y a des allers-retours. Là encore, il y a ce texte de loi dont vous avez parlé qui marque une rupture, qui démontre une avancée. Et dans le même temps, on considère encore les enfants très souvent comme des séducteurs, comme des séductrices, plus souvent d'ailleurs que comme des séducteurs, comme des mythomades. On a du mal à les faire confiance, à les considérer pleinement en tant qu'être, en tant qu'individu.
Oui, ça aussi. Alors, ça tient à plusieurs choses. D'une part, parce que la spécificité, la singularité de l'enfant n'est pas reconnue. Elle n'est pas élaborée intellectuellement et scientifiquement. Donc là, il faudra justement attendre le développement des sciences du psychisme à cet égard. Et puis, un certain nombre de considérations qui apparaissent à la toute fin du siècle sur ce qu'est l'adolescence, par exemple. Mmh. Un moment qui est particulier et qui fait que l'individu se comporte d'une certaine façon. On se méfie des enfants au 19e siècle. D'ailleurs, les agresseurs tirent de cette méfiance leur tranquillité, je dirais. Mais il me semble que ça n'a pas complètement changé quand même. C'est-à-dire qu'ils estiment que, on ne croira pas les enfants s'ils parlent. D'abord, les enfants ne parleront pas. Infants, c'est celui qui ne parle pas. Donc l'enfant, c'est celui qui ne parle pas. Et quand il parle, il dit un peu n'importe quoi, il n'y a aucune raison de le croire. Et ça, en plus, c'est l'objet d'une élaboration progressive dans la deuxième moitié du 19e siècle autour, justement, de ces théories de la séduction, de la provocation. Ces théories qui trouvent une consistance scientifique sous la plume des médecins aliénistes ou des médecins légistes, simplement, qui sont chargés de statuer sur la réalité du viol. Et puis qui vont trouver une consistance encore plus scientifique avec le psychiatre Dupré qui invente la notion de mythomanie infantile. Et là, tout est dit. Et tout est dit pour un siècle.
Une autre chose qui n'a peut-être pas totalement changé, c'est de considérer que la pédocriminalité est un crime de pauvre, un crime qui appartient aux classes laborieuses, aux classes modestes.
Alors, j'espère que ça a changé, quand même un peu, mais...
L'affaire Le Scornec montre bien, justement, que statut protège encore.
C'est ça, le statut protège, le fait d'être un notable protège. Alors, disons que ça protège jusqu'au moment de la révélation. Et effectivement, ça permet une certaine impunité, ça permet de passer au travers des gouttes pendant un certain temps.
Vous l'aviez dit vous-même, mais la révélation, elle avait débuté dès 2005,
bien sûr,
on le savait
bien
déjà.
Bien sûr. On savait qu'il était consommateur d'images pédopornographiques, ce qui ne signifie pas forcément qu'il est pratiquant, si j'ose dire. Ça aurait dû quand même inquiéter un peu le Conseil de l'Ordre, beaucoup plus.
Je fais un bond dans l'histoire, Anne-Claude Ambroise Rendu. Je nous projette dans le post-68, cette révolution culturelle qui en appelle à une libération des corps et de la sexualité. Là encore, quelle rupture cela marque-t-il dans l'histoire de la pédocriminalité ?
Disons que ces années post-68 sont des années qui offrent à la fois un contexte et une niche au développement d'un discours disons, qui défend la possibilité de relations sexuelles entre adultes et enfants. Un contexte, parce que le contexte, c'est celui de la libération, du discours sur la libération sexuelle, la remise en cause intégrale, radicale, de l'ordre social et donc de l'ordre des familles, de l'organisation familiale, de tout cet ordre bourgeois qui apparaît comme étant un, comme étant le lieu de l'oppression, disons, hein. Et puis une niche parce que les défenseurs de cette possibilité d'avoir des relations sexuelles entre adultes et mineurs, qui se nomment eux-mêmes pédophiles, et c'est à ce moment-là que le mot devient massivement utilisé.
Ils le revendiquent,
absolument, parce que pédophile, ça veut dire au sens strict celui qui aime les enfants, et donc ils aiment les enfants et ils revendiquent une pratique sexuelle avec les enfants sans violence ni contrainte, en arguant du fait que les enfants sont parfaitement capables de d'avoir du désir et d'exprimer et de vivre ce désir sexuel et qu'il faut le leur reconnaître. C'est une façon de les libérer.
Alors à propos justement de celles et ceux, de ceux surtout d'ailleurs qui aimeraient les enfants, je voudrais vous parler de D. D, c'est une initiale. Le 26 janvier 1979, sous le titre D s'explique, le journal Libération publie dans sa rubrique courrier la longue lettre d'un moniteur sportif bénévole, inculpé d'attentat à la pudeur sur mineur. L'homme dont l'arrestation deux semaines auparavant a fait grand bruit s'adresse depuis sa prison au juge qui le jugera dans quelques semaines et il dit enfin à la fin de cette lettre: pourquoi un homme n'aurait-il pas le droit d'aimer un enfant? Il répond évidemment à sa question: il faut libérer les esprits, il faut changer la vie. Fin de citation.
Voilà, on voit bien comment ce plaidoyer s'inscrit dans un discours plus général, qui est un discours de libération. Je parlais de niche tout à l'heure. La niche, c'est la revendication de tous ceux qui affirment pratiquer des sexualités alternatives à pratiquer leur sexualité librement. Et donc, ces défenseurs de la pédophilie vont essayer de s'associer aux défenseurs de l'homosexualité et de la possibilité pour les homosexuels de vivre leur sexualité librement.
Matzneff cristallise cela, la figure justement de l'intellectuel pédophile qui étant explique tout cela dans ses textes, dans sa littérature.
Ah oui, oui, il n'est pas le seul, mais disons il est peut-être celui qui a le plus pignon sur rue, et il est accompagné et défendu d'ailleurs par certains représentants du FRAR, le front homosexuel d'action révolutionnaire, hein, qui, sans être eux-mêmes intéressés par ces pratiques-là, considèrent que ça fait partie d'une espèce de bloc de libération nécessaire. Je pense que chez Matzneff, il y a une insincérité très profonde, hein, à s'arrimer à ce discours-là, à ce discours de liberté ou de libération.
La voix d'Eva Thomas dans une archive INA de 1986, on y revient après.
Alors j'ai choisi de parler à visage découvert et parce que j'ai envie de sortir de la honte. Moi je n'ai plus honte de répondre de mon histoire, mais ça s'est passé une nuit et... Bon, la nuit, c'est terrible, parce que bon, la nuit, il y a aussi les rêves, les cauchemars, etc. Et après, le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais un trou noir dans la tête, un blanc dans ma tête, je ne savais plus ce qui s'était passé. J'étais horriblement angoissée, mais je savais seulement... Enfin, j'avais le souvenir de mon père sur moi, et c'est tout. Mais tout ce qui s'était passé, j'en avais aucun souvenir. Et j'ai mis 30 ans à retrouver la mémoire de cette nuit-là.
Ce n'est pas le premier témoignage, Anne-Claude Ambroise Rendu, c'est peut-être l'un des premiers témoignages, celui qui génère un bruit considérable dans l'opinion publique. Rappelez-nous ce qu'on vient d'entendre.
Alors, Eva Thomas publie à ce moment-là son livre Le viol du silence et elle est invitée sur le plateau des Dossiers de l'écran, qui est quand même une émission extrêmement populaire, extrêmement suivie.
Présentée par Alain Jérôme sur Antenne 2.
Voilà, et avec un standard téléphonique, ce qui leur permet de recevoir des appels des téléspectateurs, ce qui est très important.
Et de mesurer l'ampleur de l'impact.
Absolument. Et donc, cette émission est très suivie, elle fait un des meilleurs scores d'audimat théâtre ce soir-là, et surtout, ou en plus, le lendemain, elle est toute la presse. Et quand je dis toute la presse, c'est pas une façon de parler, c'est vraiment toute la presse française en parle, et au-delà de la France, la presse italienne, enfin bref, la presse étrangère en parle aussi, en annonçant justement la fin de la honte. La honte change de camp, disent les journaux, parce que les victimes de viol ou d'inceste vont enfin pouvoir parler à visage découvert. On est en 86.
86, 89, c'est là aussi une rupture fondamentale. Le moment 89 qui marque là aussi une rupture, mais dans le domaine judiciaire, là encore.
Alors oui, parce que en 89, c'est donc François de Clauset qui invite sur son émission, sur le plateau de son émission Médiation, un certain nombre de victimes d'inceste, adultes, parmi lesquelles Eva Thomas, qui à nouveau donc témoigne à visage découvert, et qui donc révèle les incestes dont elles ont été victimes. L'une d'elles va être poursuivie pour cela, François de Clauset également, et le procès a lieu au mois de juillet, au moment même où est votée une loi de protection de l'enfance qui permet de faire passer la prescription relative à ces crimes, puisque la prescription courait était de 10 ans, enfin la durée était de 10 ans à partir de la date du crime. Désormais, le délai de prescription court à partir de la majorité, ce qui va permettre à un certain nombre de victimes prenant conscience de se retourner vers leur agresseur.
Quel est l'impact de l'affaire Outreau sur la perception de la pédocriminalité ? J'ai le sentiment que c'est un impact très ambivalent qui permet de lever le voile d'une part, mais qui crée dans le même temps, dans la foulée, une omerta impressionnante.
Alors, bon, je ne suis pas personnel de justice, et donc je ne parlerai pas d'omerta, mais certains le disent en effet. Hein. C'est vrai, c'est un impact qui a été très très ambivalent, à la fois parce que on a découvert que la justice pouvait aller trop vite, se précipiter et produire en réalité ce qu'elle redoute, ce qui explique une partie aussi de la frilosité, disons, de la justice depuis le 19e siècle. Hein. Ce qu'elle redoute le plus, c'est l'erreur judiciaire, bien entendu. En même temps, ça fait rebondir ce discrédit qui pèse sur la parole des enfants. Ah ben oui, ils sont mythomanes. Ah ben oui, il faut faire très attention quand on les écoute. Mais de fait, il faut faire très attention quand on les écoute. Il faut savoir les entendre.
Et le souvenir des perceptions du 19e siècle que vous décriviez. La voix d'Arnaud Gallet, le cofondateur de Move Enfant, il était interviewé dans l'émission C'est ce soir, en février dernier.
Je vais vous donner un seul exemple pour bien comprendre les enjeux. Qu'est-ce que les gens nous ont dit ? Seuls 8% d'entre eux ont bénéficié d'un soutien social positif. C'est-à-dire qu'on a dit dans 8% des cas uniquement à un enfant « je te crois, je te protège ». Dans 62% de ces cas-là, les personnes ont déclaré avoir aucun impact sur la santé physique, psychique, etc. C'est-à-dire que dans 92% des cas, on a très souvent dit à un enfant « je te crois, mais je ne te protège pas » parce que c'est la famille ou parce que c'est un jeu, parce qu'on sait bien que violer, c'est un jeu quand même. Et là, dans 100% des cas, les personnes ont des conséquences sur la santé physique, psychique, etc. C'est ce qu'on a appelé le coût du déni qui nous coûte effectivement 9,7 milliards. Une fois qu'on a dit ça et qu'on traduit ça théoriquement en termes de politique publique, qu'il n'y a qu'une seule préconisation qui a été suivie, je vais vous dire ce que c'est. C'est un spot qui est passé notamment sur France TV. On voyait une petite fille, on imaginait que son agresseur rentrait, et le spot visait à dire « aidons la petite fille à libérer son secret ». Mais c'est pas ça ce que les gens nous ont dit. Les gens nous ont dit « les enfants parlent, nous ne sommes pas capables de les protéger ». Donc si on dit dans ce message « aidons la petite fille », c'était peut-être plutôt « aidons la société à protéger les enfants ». Mais on n'a pas compris.
On a listé, Anne-Claude Ambroise-Rendu, les affaires récentes, MeToo, Camille Kouchner, Vanessa Springora, Betaram, Le Squarnec, il y en a beaucoup d'autres, et ces chiffres pourtant qui restent profondément réels, et l'écoute qui n'est pas du tout, c'est le cas de le dire, libérée.
Oui, alors je ne sais pas si c'est l'écoute et l'accompagnement sans doute, hein, c'est-à-dire c'est ce qui témoigne d'une espèce d'impuissance des politiques publiques à prendre cette question en charge. Alors, impuissance, moi j'irais plus loin qu'impuissance, d'ailleurs je dirais il y a quand même une résistance, et une résistance qui n'est pas propre aux politiques publiques, qui est propre à l'ensemble du corps social. Et une résistance que je traduirais en quelques mots, c'est-à-dire qu'on, malgré tout, je crois qu'il y a enfoui dans beaucoup d'esprits l'idée que bon, tout ça n'est quand même finalement pas si grave, et que Et qu'en plus, tout ça n'est sans doute pas évitable. Donc ça révèle quelque chose qui est une structure, et je vais prononcer le mot, qui est simplement le maintien d'une structure qui est une structure patriarcale, dans laquelle quand même un certain nombre d'hommes, et c'est le cas de Le Squarneck, se disent, se représentent, disons, ce qu'ils font comme étant... Ils se voient eux-mêmes comme étant à l'abri parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir bénéficier de cette espèce de refus de voir parce qu'ils sont des hommes en situation d'eux et que donc ils ont à leur disposition le corps des enfants. Voilà, c'est ce rapport-là, qui est un rapport de domination masculine, disons, sur le corps des enfants et peut-être moins aujourd'hui sur le corps des femmes, qui est quelque chose qui me semble être encore très ancré, c'est une représentation très ancrée dans les mentalités.
Merci beaucoup Anne-Claude Ambroise Rendu pour ces mots et puis pour ce travail également. Je rappelle que vous êtes historienne, professeure d'histoire contemporaine à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Le titre de votre ouvrage, Une histoire de la pédophilie, qui est paru aux éditions Fayard en 2014. Merci d'être venu dans Question du soir.
Merci à vous.